Bienvenue dans l'émission Secrets de fabrique sur Art District avec Julie Chaise-Martin. L'émission où l'on parle technique, couleurs, composition, effets et astuces des artistes. En partenariat avec Winsor & Newton. Alors que le dessinateur suisse Cosé a remporté le Grand Prix du Festival d'Angoulême, connu notamment pour son personnage de Jonathan, créé pour le journal Tintin, en arpentant les rues de la cité charentaise, vous pouviez aussi visiter la belle exposition consacrée à l'américain Will Eisner, l'inventeur et le maître du roman graphique, dont l'immersion dessinée dans le Brooklyn des années 40 nous charme tout particulièrement. Également à voir les planches de l'album « L'ambassadeur des ombres » daté de 1975 de Pierre Christin et Jean-Claude Mézières, dont Luc Besson vient de s'inspirer pour écrire son prochain film « Valérian et la cité des mille planètes ». Certains ont aussi pu flâner à l'espace Franquin devant 150 planches d'Hermann, Grand Prix du Festival 2016. Le manga était aussi à l'honneur avec l'un des maîtres du genre, sous l'ère Hirohito, Kazuo Kamimura, dont les planches sont toujours objets de fascination 30 ans après sa mort. En parlant de planches, d'estampes, de dessins, on se pose souvent la question de savoir comment les dessinateurs fabriquent leurs BD. Art District est allé découvrir la fabrique des mains sales, spécialisée dans la sérigraphie d'art et la diffusion des estampes. Nous y avons rencontré Edmond Baudouin, lauréat du prix d'Angoulême du meilleur album en 92, qui signe une belle correspondance illustrée intitulée « Un pas de deux » avec Marianne Deville, ainsi que l'illustrateur Alexandre Cléris et les artistes Geoffrey Grimal et Audrey Potras. Aux mains sales, passionnés et artistes se rencontrent pour fabriquer des images, et cette fois à l'occasion du festival autour du Marker's Bar Winson & Newton, comme nous l'explique Thomas Dervieux, cofondateur de cet espace créatif.
C'est un studio de création, c'est une maison d'édition, c'est une imprimerie d'art. C'est d'ailleurs partie de l'imprimerie d'art, toute cette histoire. C'est un lieu de diffusion, le comptoir des images à côté. C'est la sérigraphie.
Oui, est-ce que vous pouvez détailler un peu ce que c'est que la sérigraphie ?
Alors, peut-être un point étymologique. Série, c'est séricicole, l'élevage des vers à soie. Graphéen, l'écriture. C'est la transmission de l'écriture par la soie. Dans la famille de l'imprimerie, il y a le tampon, il y a le pochoir, en grosso modo, ben c'est la famille du pochoir. Le principe, c'est un cadre sur lequel est tendu un tissu, à travers lequel l'encre passe. Et puis on met une sorte de cire sur le tissu pour empêcher l'encre de passer à certains endroits. Et couleur par couleur, on vient superposer des pochoirs pour obtenir une image. C'est un procédé qui dépose beaucoup d'encre, 10 fois plus que l'offset par exemple, et donc c'est prévu pour tenir dans le temps. C'est pour ça qu'on a choisi cette technique, parce qu'on veut faire des images durables. À l'ère du numérique et de beaucoup d'images qui se créent et disparaissent aussitôt, on a choisi de faire des images qui restent un peu. Alors, la sérigraphie, elle est arrivée en France plutôt pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Américains, ils avaient besoin de ça pour sérigraphier les carlingues d'avions, les cantines militaires, faire de la signalétique dans les camps. Quand ils sont partis, ils ont laissé le matos et la société civile s'en est emparée. Les beaux-arts assez vite, et ils ont trouvé comment faire de l'art avec ce système. En France, il y a beaucoup de sérigraphie, plus de 90%, c'est industriel. Il y a toutes les bâches de camions, les panneaux de signalisation de la route, la plupart des tissus imprimés, les circuits imprimés des ordinateurs, les petits crayons, les touches des télécommandes, enfin on en trouve, tout le monde en a autour de lui, ils ne savent pas forcément où c'en est, les tableaux de bord des voitures, enfin, il y en a partout. Et dans l'art, pas vraiment. D'ailleurs, l'Institut, le code de l'art au niveau de l'État, considère comme multiples les bronzes, les photographies, les gravures, etc. La sérigraphie, non. La sérigraphie n'est pas considérée en France. Au Canada, elle l'est, il y a un code éthique de l'estampe. En France, pas encore. Donc c'est notre génération qui devra faire un peu avancer ça, parce que c'est arrivé en 40, on est en 2017, bon, il serait temps maintenant de se mettre à jour là-dessus. Et en vrai, c'est arrivé dans les années 30, très confidentiellement, dans les industries de la céramique. Voilà. Mais avant, il n'y avait rien du tout en sérigraphie en France. Mais 68, la révolution étudiante a mis en place beaucoup, toutes les affiches mai 68 étaient faites comme ça, en sérigraphie. En fait, il y a eu un gros essor de la sérigraphie jusque dans les années 70, presque 80, mais dans les années 80, l'imprimante personnelle a débarqué dans les foyers. Et les gens sont passés de ce système d'impression, parce qu'il suffisait d'imprimer avec l'imprimante IBM, et c'était génial. Mais là, les gens commencent à en revenir, parce que la qualité d'encre et d'aplat de la sérigraphie, c'est propre à ce médium-là. Le numérique sert pour des choses qui doivent être faites en numérique, et la sérigraphie sert, l'un ne remplace pas l'autre, c'est du complémentaire. Donc la sérigraphie revient là, depuis 2000 à peu près.
D'accord, après une période... Elle revient aujourd'hui.
Et un déclin qui a été désastreux, parce que on travaillait la sérigraphie avec les produits chimiques. Les années 70, il y a eu des consommations festives de produits chimiques. Donc il y a eu des grands maîtres de la sérigraphie qui sont morts. Et il a suffi de 10-20 ans de génération qui n'a pas pu passer le relais. Nous, les jeunes, on redécouvre tout.
Vous redécouvrez, et avec des produits moins toxiques, du coup.
Ouais. Voilà, ouais. Et mais voilà, entre vraiment il y a eu cette cassure là où on a perdu un savoir.
Et alors, quel est le rapport avec la bande dessinée?
Il se trouve qu'on s'est arrêté à Angoulême un jour. Geoffrey, qui faisait de la sérigraphie, et moi aussi, avec les éditions dans la caravane, je faisais ça. Je vivais dans un camion et j'avais une édition itinérante. Et en me sédentarisant à Angoulême, et Geoffrey en venant à Angoulême, on a vu qu'on était tous les deux sérigraphes, qu'on avait la même sensibilité sur le médium, et que ce serait débile de se faire concurrence. Alors on s'est associé.
Vous accueillez des auteurs, des dessinateurs, voilà, oui, et des illustrateurs de bande dessinée.
Voilà, le territoire sur lequel on est, il y a des dessinateurs, il y a de la bande dessinée. Il y a, je crois, 250 dessinateurs de BD qui vivent et travaillent ici. Il y a des écoles de l'image. Donc, comme on a un côté très... on s'appuie sur le territoire pour faire exister notre médium, celui qu'on aime, la sérigraphie. Ici, c'est de la BD. Alors, on a travaillé avec des auteurs de BD.
Vous accompagnez, en fait, un artiste dans son projet de création d'un livre, par exemple, ou,
Alors non, souvent, le livre, c'est l'artiste et son éditeur qui fait ça. Nous, en général, on ne fait pas de livre, on travaille sur l'estampe. Et là, on va sortir justement l'auteur du réflexe livre et faire exister son univers en image unique, en estampe, signée, numérotée. Ce qui lui fait un complément de revenu, parce que quand on pense que les droits d'auteur, c'est 7-8% sur un livre qui coûte 15 euros, qui est tiré à maximum 5000 exemplaires, et puis il y en a 3000 qui sont détruits, en mise au pilon. En fait, la condition auteur, c'est très difficile. Ils sont à l'agonie, ils gagnent souvent le SMIC. Hein,
ça signifie qu'avec la
RSA,
la vente d'estampes, en fait...
Ça fait un petit complément, parce que nous, une estampe, on va la vendre 80-100 euros et on va mettre 20 euros de droit d'auteur. Donc, d'un coup, ça peut faire un complément de salaire. Et là, on travaille sur une AMAP de l'image. C'est un modèle économique qu'on va essayer de mettre en place l'année prochaine, qui permettra... chaque adhérent paiera, comme dans l'agriculture, en fait. On prend ce modèle-là et on essaye de l'adapter au monde de l'image. 10 euros, chaque adhérent donne 10 euros tous les mois, et donc 120 euros par an. Ces 120 euros, on les transforme en pouvoir d'achat avec une indexation. Ça veut dire qu'ils auront 200 euros de pouvoir d'achat. On fait comme les banques, en fait. Et ça va nous permettre d'avoir de la visibilité pour payer un imprimeur à l'année, qui lui n'a que des éditions à imprimer. sans se poser de questions de la rentabilité, etc. Tous les moyens impriment des estampes et les adhérents pourront acheter les estampes comme les paniers de légumes en fait, mais choisir dans le catalogue. Ils ne sont pas obligés d'avoir les estampes qu'ils n'aiment pas. Voilà, et c'est ce qu'on met en place en 2017. J'ai pas l'impression qu'il y en ait encore en France des choses comme ça. C'est un modèle qu'on va essayer.
Voilà, un nouveau concept, un nouveau modèle économique sur la base de l'économie collaborative et
circulaire.
Et solidaire.
Ouais. C'est ce principe-là parce qu'il faut décoincer ce qui se passe ici. Tous les copains auteurs et vraiment on crève la dalle. Donc il faut trouver des solutions pour décoincer un peu tout ça. Et on va en mode laboratoire essayer des choses. Et puis on verra comment ça marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui marche. Et en avançant comme ça, on devrait trouver des portes, des fenêtres.
Voilà. Alors, il y a un autre lieu juste en face, le comptoir des images.
Bonjour, je m'appelle donc Angèle Poulain-Villeneuve et je suis responsable du comptoir des images situé 7 rue de Genève à Angoulême. Alors au comptoir des images, ce que nous pouvons voir, c'est déjà du local. Qu'est-ce que j'entends par local ? C'est les éditions graphiques et éditoriales de la région. Donc ce qui est présenté, ce sont des éditeurs installés sur Angoulême, Poitiers, Bordeaux, ainsi que des sérigraphes aussi. Et plus largement, c'est un moyen de présenter les auteurs qui vivent dans le giron du Poitou-Charentes. Il y a à peu près plus de 200 auteurs, donc là il y a un gros travail à faire. Voilà ce qu'on trouve au comptoir des images, du livre, beaucoup de bandes dessinées, mais du livre illustré, livre jeunesse, et de magnifiques estampes, qui sont des impressions artisanales pour la plupart des sérigraphies.
Un carrefour de rencontres, alors justement, là c'est l'effervescence aujourd'hui au Mainsal. Il y a des artistes, il y a évidemment des passionnés qui viennent voir les artistes en train de dessiner. Parlez-nous un peu de ce qui se passe aujourd'hui au Mainsal et de la collaboration que vous avez avec la marque Winsor & Newton.
D'accord. Alors là on s'est dit, le comptoir c'est bien, il y a pas mal de choses exposées, mais on a eu une grosse production et on ne peut pas investir tous les murs du comptoir des images parce qu'il n'y aurait pas de place pour les autres. Donc on a loué un autre lieu à côté pour mettre en exposition le livre, les originaux qui ont servi à faire le livre d'Edmond Baudouin et Marianne de Wille, la dernière série d'Alexandre Cléris, la série du retour du Canada de Geoffrey Grimal et Audrey Potra.
Marianne Deville et Edmond Baudouin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en dédicace aujourd'hui au comptoir des images à l'occasion du festival de la bande dessinée à Angoulême. Vous présentez ce très beau livre, Un pas de deux. Vous l'avez réalisé en duo. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Edmond Baudouin peut-être ?
Edmond Baudouin, qu'est-ce qu'il peut dire ?
Comment il est
projet ? J'aime l'écriture, j'aime la littérature en général, mais j'aime aussi le cinéma, j'aime la danse, j'aime beaucoup de choses. Je crois que quand on fait un art, il faut se préoccuper, ou s'intéresser plutôt, pas se préoccuper, mais aux autres arts qui sont autour. Et l'écriture de Marianne, je l'ai découvert parce qu'elle m'écrivait, tout simplement, et puis aussi parce qu'elle veut écrire. Oui, d'amitié, beaucoup. Et comme elle va vers l'écriture, elle va de plus en plus vers l'écriture. Et elle m'a envoyé des textes qui sont de notre histoire quand même. Donc, j'ai eu envie d'illustrer ces textes. Et il y a 2 ans, là, à Angoulême, j'ai les dessins avec moi, j'ai les textes avec moi, je me promène dans la bulle, donc la bulle des sauvages là, de New York là, et je regarde les éditeurs, et c'est vrai que je m'arrête sur les mains sales. À mes yeux, ça correspondait avec les dessins que j'avais faits.
Et vous, Marianne, donc vous êtes plutôt illustratrice et peintre à l'origine ?
À l'origine, je suis peintre en décor, voilà. Mais j'ai toujours beaucoup écrit et je connais Edmond depuis presque 25 ans. On s'est toujours beaucoup écrit et là, ce sont des textes qui ont été écrits pendant 6 ou 7 ans. C'est un peu comme des petits cahiers sur un chemin, Et Edmond, donc c'est quand même écrit sur la durée, et Edmond les a dialogué avec ses textes à peu près sur un an après qu'ils aient été écrits. Et donc après ça, on a été montré donc ça aux mains sales, et on a fait un travail extraordinaire avec eux qui était vraiment un travail collégial. On s'est dit, voilà, il y a des dessins, il y a des textes, c'est pas encore un livre, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, comment construire le livre avec ça, comment mettre en page, comment faire que la graphie du texte rentre dans le dessin, que la graphie exprime ce que le texte dit, enfin, voilà. Et ça, c'était vraiment un travail collégial extraordinaire avec les mains sales, un travail artisanal. Et comme moi, je suis artisan, j'avais l'impression d'être en famille avec eux.
Bonjour, je suis Alexandre Cléris, je présente mon livre « L'été diabolique » aux éditions Margaux. Alors là, je dédicace l'album « L'été diabolique » que j'ai réalisé avec Thierry Smolderen au scénario. Qui est donc un livre édité aux éditions d'Argaud, sorti l'année dernière, et qui donc traite de l'histoire d'un jeune adolescent en fait, qui se retrouve avec son père durant l'été 67 dans une ville balnéaire. Et donc il va découvrir un peu son père sous des angles un peu différents qu'il ne soupçonnait pas. Il y a du mystère, et c'est plutôt dans l'esprit du polar et de l'espionnage, dans l'esprit des romans de John le Carré, fameux écrivain de cette époque.
Alors, est-ce que vous utilisez les pro-marqueurs que l'on voit ici aux mains sales aujourd'hui de Winsor & Newton?
Oui, là j'ai essayé hier un petit peu leur nouveau marqueur, et je les utilise un petit peu sur les dédicaces là.
Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est intéressant, c'est un produit intéressant. Il faut s'entraîner un petit peu pour les manipuler. Donc,
je vais faire ça. Quelle différence finalement avec ce que vous utilisez avant?
C'est vraiment assez différent. Moi, j'utilise plutôt de la peinture acrylique. Donc là, il faut s'habituer. Ouais, c'est plus comme un feutre, donc c'est entre le feutre qu'on peut retoucher un peu continuellement. Il faut s'entraîner beaucoup en fait pour essayer de le maîtriser et trouver toutes les possibilités en fait de.
Bonjour, je m'appelle Audrey Potrat, je suis artiste imprimeur et j'expose mes estampes à la Fabrique des Mains Sales dans le cadre du Festival d'Angoulême.
Bonjour, je m'appelle Geoffrey, je suis dessinateur et sérigraphe et j'expose mes œuvres que j'ai réalisées au Canada à la Fabrique des Mains Sales à Angoulême pendant le Festival de la Bande Dessinée. C'est les Mains Sales qui nous ont invités à exposer des travaux. C'est une technique qui est de la sérigraphie, entre autres. Il y a aussi de la gravure, et les mains sales sont sérigraphes. C'est pour ça que, en tant qu'anciens collègues et amis, nous ont invités à montrer nos images imprimées, comme ils sont aussi fabricants d'images imprimées.
Moi, je suis plus orientée en gravure et lithographie, mais c'est vrai que la résidence à Montréal nous a permis pendant 8 mois d'explorer les 3 techniques. Donc, j'ai fait aussi un peu de sérigraphie. C'est pas mon médium principal, mais j'en fais un petit peu quand même de temps en temps. C'est une résidence qu'on a cherché personnellement à faire. Moi, je travaillais dans un centre d'art en Bourgogne comme graveur. Donc, Geoffrey était sérigraphe aux mains sales. Et puis, on avait envie de se retrouver ensemble dans une résidence pour travailler nos projets personnels. Il y avait aussi une envie de partir un peu loin qui était présente. Et puis vraiment une volonté de travailler pour soi un peu, consacrer du temps à ses œuvres. Moi, je travaille beaucoup avec des éléments de collage qui représentent des symboles assez communs de maisons, personnages, plantes. Et j'essaye de parler un peu de la place de l'homme, de la notion de passage, de rite. Voilà. Après, c'est suffisamment large pour que tout le monde puisse y trouver une histoire personnelle, je pense.
Et vous, Geoffrey Grimal, quels sont les thèmes que vous aimez aborder dans vos œuvres?
C'est rigolo, j'ai envie de répondre. Quels sont les thèmes que je n'aborde jamais? Et je dessine rarement des êtres humains. Je fais souvent C'est de l'illustration, ça c'est sûr. Mais en général, c'est, à part des portraits, c'est beaucoup d'animaux, beaucoup de paysages, de morceaux de nature, assez illustratifs. Et à chaque fois, j'essaie de mettre une intention et une histoire dans chaque illustration. Je fais de la sérigraphie, mais je fais aussi de l'illustration. Et les deux ensemble, ça donne mon travail.
Alors Geoffrey Grimal, vous avez aussi expérimenté, essayé les marqueurs Winsor & Newton. Comment vous les avez trouvés ?
Alors je les ai trouvés assez agréables et surtout très surprenants. C'est-à-dire que je pensais avoir droit à un feutre et j'ai eu droit à de l'aquarelle en tube. C'était assez surprenant. Donc ça ressemble à un feutre, ça a les mêmes couleurs qu'un feutre, mais ça se travaille comme de l'aquarelle. C'est très étrange, mais c'est assez rigolo.
Donc, voilà, en tant qu'illustrateur, vous conseillerez d'essayer quand même ces marqueurs qui ont une qualité particulière.
Ils sont chaque matériel de dessin a des avantages et des inconvénients, et je pense que c'est des feutres qui sont suffisamment originaux pour trouver leur place dans la trousse d'un illustrateur.
Winsor & Newton avaient besoin d'un lieu pour présenter leurs marques et leurs marqueurs. Et nous, on avait besoin d'un partenaire aussi pour aider à payer le lieu. Et on a trouvé la collaboration pertinente parce que c'est des produits qui correspondent au métier. Et donc, on a cherché un moyen de cohabiter, de se faire une petite coloc conviviale.
Alors, le rapport entre les marqueurs Winsor & Newton et la sérigraphie ?
Il n'y en a aucun, mais en fait, Colart, c'est un groupe qui, c'est peut-être pas moi qui en parlerai mieux, mais qui possède plusieurs marques comme Charbonnel, Liquitex, etc., des grandes marques de beaux-arts. Sauf que la sérigraphie étant arrivée tard en France, toutes ces vieilles marques, il n'y en a pas un qui fait de la sérigraphie. Pour les matières premières, c'est des résines acryliques en base aqueuse, on va se servir en Belgique, parce qu'ils ont 50 ans de chimie, alors que la France n'a pas développé ça, malheureusement. Mais après...
Ça viendra.
C'est futur, ça.
Merci beaucoup, Thomas Dervieux, de nous avoir présenté les mains sales, et puis bon festival.
Merci, vous aussi.
Bonjour Pierre Ball.
Bonjour.
Vous êtes donc responsable de la relation avec les artistes et les écoles chez Colart. Racontez-nous, qu'est-ce qui se passe ici ? On est à Angoulême, au Festival de la Bande Dessinée. On est à la fabrique Les Mains Sales. Et Winsor & Newton est présente ici avec un Markers Bar.
Exact.
Qu'est-ce que ce Markers Bar ?
Alors, c'est une idée originale et un petit peu un concept un peu inversé, on va dire. Habituellement, c'est dans des bars ou dans des restaurants ou dans des lieux publics. On accueille une exposition. Et là, l'idée des mains sales, c'était de dire, tiens, si on trouvait un partenaire pour créer, que ça soit une expo qui était invitée, un bar qui était invité dans une expo. Voilà, l'effet inverse. Donc ça s'appelait Markers Bar parce que Winsor & Newton, bien sûr, est présent dans ce salon Angoulême pour toucher des illustrateurs, des auteurs de BD. Donc, et l'outil graphique traditionnel, le marqueur, fait partie encore et toujours des moyens d'expression en plus des outils numériques. Maintenant qu'ont les artistes pour créer leur maquette originale. Voilà.
Alors ces marqueurs sont comme nouveaux. Quelle est la différence avec des marqueurs qui pourraient déjà exister ? Pro marqueur, broche marqueur, pigment marqueur, ce sont les trois gammes que l'on trouve chez Winsor & Newton. Qu'est-ce qu'ils sont de révolutionnaires ces marqueurs ?
Alors il y a deux catégories, il y a les pro et broche, pro marqueur, broche marqueur, qui sont des marqueurs à base d'alcool, donc les marqueurs classiques, traditionnels. La nouveauté dans cette famille-là, de marqueur à l'alcool, c'est le broche qui a une pointe souple qui rappelle un peu le pinceau. Donc pour ça on a ces ateliers d'essai aussi pour découvrir ces nouveaux marqueurs qui permettent d'avoir vraiment une douceur de trait, des pleins, des déliés, un peu comme si on travaillait au pinceau. Donc ça c'est une nouveauté dans la forme de la pointe, on va dire, du marqueur. Et Pro Marqueur étant une gamme très, très classique, très ancienne, qui existe depuis longtemps, qui a fait ses preuves et qui est très bien vendue dans les écoles également. Alors la nouveauté c'est l'autre famille qui sont les pigment marqueurs. Et d'où là déjà, originalité dans le nom, figure dans le nom, ce sont des marqueurs à base de pigments. Car souvent, les marqueurs sont à base de colorants. Ceux qui sont à base de pigments sont les marqueurs acryliques, par exemple. Et on a aussi maintenant dans les marqueurs pour les arts graphiques, des marqueurs donc pour faire de l'illustration, du pigment, pour pouvoir avoir une couleur, une luminosité différente que les colorants surtout une tenue dans le temps exceptionnelle, puisqu'on a testé ces pigments, on a sélectionné les pigments de qualité Beaux-Arts, donc qui tiennent plus de 100 ans à la lumière, hein, donc, ce qui n'est pas le cas des colorants qui passent beaucoup plus rapidement. Voilà. Donc pigment marker, c'est du pigment, et aussi c'est la possibilité de travailler dans le frais, un peu comme dans la peinture d'ailleurs, où il y a un temps de travail qui est beaucoup plus long que les marqueurs à l'alcool. L'alcool s'évapore très vite, alors que là on a une peinture qui peut se travailler sur le papier se construire. On peut pousser les couleurs, même une fois sèche on peut encore travailler dessus. On a un côté réversible, un peu comme d'ailleurs dans le digital, puisqu'on peut toujours faire une dos, revenir en arrière. Donc ça peut aussi intéresser les artistes digitales qui peuvent retrouver dans un outil traditionnel ces avantages d'évolution du dessin. Voilà.
Alors vous êtes présent au Festival de la Bande Dessinée parce que justement pour les auteurs et les illustrateurs de bande dessinée, ces pro-marqueurs, ces marqueurs Winsor & Newton sont un outil efficace et intéressant.
Mais c'est-à-dire, voilà, ils peuvent découvrir une nouvelle écriture finalement, des nouveaux effets, parce que dans l'illustration, vous avez les marqueurs, mais vous avez aussi de l'aquarelle, vous avez aussi le numérique. Et donc les pigment marqueurs, c'est un peu une nouvelle catégorie d'effets qu'on peut trouver. C'est entre la gouache et l'aquarelle et l'encre, vous voyez, ils créent une nouvelle catégorie finalement d'effets. Donc, et ça plaît beaucoup, puisque quand on voit cette exposition ici, vous avez même des illustrateurs qui font de la gravure, qui font la sérigraphie. Bon, évidemment, ça c'est une technique spécialisée des mains sales, ça peut aller au dessin, aussi au pastel, même le bic qui peut être aussi utilisé de plus en plus, on le voit aussi dans des dessins d'exécution.
Vous avez imaginé des ateliers de création avec des artistes, est-ce que vous pouvez nous les présenter?
Alors oui, ce sont donc les ateliers, l'espace dessinateur comme on l'a appelé, donc ce sont des workshops en permanence, le public destiner cela à des dessinateurs, donc amateurs ou professionnels, ou même des étudiants, hein, peuvent venir s'exercer, essayer les nouveaux outils graphiques avec les conseils de nos artistes, l'équipe de Fine Art Collective. Alors c'est, on va dire, l'équipe qui sont des artistes et qui connaissent très bien les outils donc graphiques, mais aussi la peinture à l'huile, l'aquarelle. Ce sont des artistes multitechniques, hein, qui travaillent pour Colart, qu'on a donc créé un nom, je dirais, de communication qui est The Fine Art Collective. Ce sont des artistes qui parlent aux artistes, en fait. C'est un collectif d'artistes dont le centre d'intérêt est l'angle de com, ce sont les outils d'expression. Donc voilà, donc ils parlent de pigments, de composition, d'effets, d'astuces, de comment utiliser les produits, comment bien préparer ses supports, comment vernir, comment utiliser les applicateurs, quel support choisir, les papiers. Donc il y a vraiment toutes ces questions techniques selon le projet, selon le besoin. Ça peut être des étudiants qui ont besoin de produire rapidement, donc dans ce cas-là, pas besoin d'aller vers des produits à base de pigments puisqu'ils sont dans la production répétitive. Ça peut être après des artistes professionnels. Donc c'est pour ça, ces événements comme le Festival de la BD d'Angoulême nous permet de créer aussi une relation technique avec des artistes professionnels, par des artistes professionnels. Voilà, moi je suis un peu plus le manager dans cette partie-là et le facilitateur. On est un peu le partenaire des mains sales, donc le mécène un peu de cette place, puisqu'on cofinance le lieu, les produits sont offerts, on ne fait absolument pas de business sur cet espace-là, c'est que de la découverte et de l'échange.
Et pour Winsor & Newton, c'est important, voilà, d'avoir des explications sur la technique des produits Beaux-Arts de Winsor & Newton. Depuis longtemps, vous avez cette démarche d'accompagner les artistes, d'être auprès des artistes pour leur expliquer vos produits.
Alors c'est une démarche qui est un peu plus poussée depuis 3 ans, puisque The Fine Art Collective France existe depuis 3 ans. Et donc, évidemment, les produits sont techniques quand même. La marqueur a l'air assez simple, mais tout de même, l'explication, l'utilisation du pigment marker, par exemple, ouvre de nouvelles voies. Donc, il faut un peu orienter, suggérer. Et c'est un produit qui a besoin vraiment d'une assistance au départ pour bien comprendre toutes les possibilités. Bon, c'est le cas après d'autres techniques aussi, comme l'aquarelle. C'est des techniques très, très compliquées, puisque le papier absorbe les couleurs. Une fois sec, on ne peut plus rien faire. Enfin, c'est tellement difficile de peindre à l'aquarelle. Et la peinture à l'huile, n'en parlons pas. C'est aussi une technique qui nécessite une technique ancienne. Alors ça n'empêche pas que ce n'est pas dénué de plaisir tout ça, puisque la technique n'est pas non plus l'angle uniquement d'explication. On peut rapidement faire se faire plaisir avec des couleurs. Mais voilà, donc la démarche, c'est vraiment d'aller expliquer ça dans les endroits où il y a des artistes et aussi dans les écoles d'art. Donc on organise une centaine de workshops par an avec nos artistes, donc, et on est présent dans une dizaine d'événements, dont des festivals d'aquarelle également. Ici, le Festival de la BD d'Angoulême, on était également présent à Saint-Malo. On sera également présent à BD Boom. Donc à peu près une dizaine de manifestations dans l'année dans ces sujets-là.
Et la bande dessinée, c'est plutôt nouveau pour Winsor & Newton ?
Non, c'est pas nouveau. Ça l'est un peu plus, puisque maintenant, nous avons ces marqueurs art graphique qui touchent vraiment directement les illustrateurs. Mais auparavant, les illustrateurs utilisaient déjà l'aquarelle ou voire l'acrylique pour l'acrylique très diluée. On peut faire aussi des effets d'aquarelle. Je connais des auteurs qui utilisent l'acrylique diluée. Et voilà, ils arrivent à avoir un produit qui sèche beaucoup plus vite et qui contrôle finalement aussi pas mal.
Moi, je m'appelle Bertrand Godard. J'ai fait les Beaux-Arts en 1996 à 2001 avec Vladimir Velikovic, qui est un peintre d'histoire maintenant, qui travaille sur de la toile, hein, donc je viens de là, de l'huile, de la toile, etc. Donc je fais aussi bien aussi de l'aquarelle, et dernièrement on a ces fameux pigment markers où en fait ce qui est extraordinaire, c'est de pouvoir avoir une espèce d'arrêt sur le temps, dans le sens où si on le compare au pro marqueur, qui est un marqueur à l'alcool, on n'a pas cette faculté de pouvoir revenir en arrière et de modifier. Un pro marqueur est 100% l'alcool, alors qu'un pigment marqueur, c'est en fait c'est du pigment qui est broyé finement avec un agent mouillant, on va dire, qui permet de déplacer à la surface ce fameux pigment. Donc il y a un effet pinceau, et alors ce qui est formidable, c'est que moins vous appuyez, plus le pigment par capillarité en fait est aspiré sur le papier, si vous voulez, parce que là je mets aucune pression, c'est comme si c'était un aéroglisseur, on va dire, et on voit, on alimente facilement sans creuser dans le papier. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est cette réversibilité. C'est à mi-chemin, je dirais, entre de la peinture, de l'aquarelle et pourquoi pas même du fusain, voilà, du dessin, puisqu'on a un outil que l'on tient comme un crayon.
Donc vous le conseillerez aux peintres, aux calligraphes, aux illustrateurs, un peu tout le monde ?
Ouais, surtout à ceux qui sont curieux et qui ont envie un peu de déstabiliser un peu dans leur pratique, quoi, de pouvoir ouvrir en fait d'autres façons d'aborder leur process créatif en fait.
Et alors ce qui est intéressant en plus avec ces marqueurs, c'est qu'on peut les emmener partout, contrairement peut-être à des pinceaux et puis une palette, etc., qui est un peu plus compliqué peut-être à emmener en voyage par exemple.
Aussi, ouais, c'est vrai.
Si on peut faire des esquisses ou des...
Ouais, ça, c'est, effectivement, des dessins, ça permettrait de retourner dans l'espace urbain ou à la campagne et d'avoir à disposition en fait la couleur pré-faite sans avoir toute cette contrainte de je m'installe pendant 3 heures, alors que là ça peut être juste un dessin d'un quart d'heure. Et pour faire des relevés de notes ou des choses comme ça, ouais, c'est vraiment un outil qui a une grande richesse, qui en fait, de par son statut d'objet, de marqueur, pourrait en fait passer presque inaperçu, alors qu'il est extraordinaire dans le sens où on a vraiment cette flexibilité en fait.
Alors il y a beaucoup de nuances, beaucoup de couleurs, hein, des marqueurs bleus, jaunes, roses, enfin
sans
énormément de
nuances, ouais,
par exemple.
Ouais, voilà, ouais, c'est assez.
Donc il y a une gamme très riche de couleurs. Est-ce que ces couleurs peuvent se mélanger entre elles sur le papier ?
Alors la particularité justement, c'est de pouvoir, celui qui est fan de dégradé, alors là il va pouvoir profiter encore plus de ça, parce que justement par rapport à ce que je disais tout à l'heure, la fenêtre dans le temps, comme ça sèche pas vraiment comme dans un papier à l'alcool, on peut toujours refusionner deux couleurs et petit à petit de faire ces fameux dégradés. Donc c'est ça qui est incroyable, même 2 semaines après.
C'est-à-dire que c'est jamais sec.
C'est sec au bout de 5 minutes, mais c'est réversible. C'est pas figé, il n'y a pas de polymérisation.
Quand c'est réhumidifié, en fait, on peut retravailler son dessin
plus tard, même plusieurs jours après. Exactement, voilà, c'est vraiment ce qui caractérise le pigment marker, c'est la marque de fabrique de l'outil. Je dirais jusqu'à un mois, deux mois, on peut retravailler en redécollant le pigment d'avant. Par contre, si on attend six mois, j'ai constaté qu'il y avait un phénomène de glacis, de vitrification. Mm-hmm. Et là, on peut resuperposer des couches. Donc ça, ça peut encore...
C'est encore une autre étape.
Voilà. Mm-hmm. Ou le vernir, ou passer un vernis acrylique. Et finalement, retravailler sur le vernis, et petit à petit de créer des fondus comme ça, pour celui qui a envie d'aller un peu plus loin.
Bonjour, je suis Laurent Blandin, je suis artiste peintre, et je suis de Montpellier. Je fais partie du Fine Art Collective, qui est un groupement d'artistes, et on travaille essentiellement avec les gammes Winsor & Newton, Liquitex, le Frambourgeois.
Alors, aujourd'hui, vous présentez les pro-marqueurs et les broche-marqueurs Winsor & Newton. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Ouais, en fait, à Angoulême, donc, dans le cadre du festival, on est présent et je présente les gammes, les nouveautés de chez Winsor & Newton, donc les pro-marqueurs qui sont connus. La nouveauté, c'est le broche-marqueur. Donc, le broche-marqueur, en fait, il a une côté marqueur et un côté pinceau. Donc ça va permettre d'aborder en fait la technique vraiment plus picturale. On va faire le lien entre le marqueur et la technique un peu plus... on va quitter un peu le graphisme pour aller vers la peinture, les aplats tendus, on va être dans un côté un peu plus ancré. Voilà.
C'est vrai que quand on dit marqueur, on a tendance à penser graphisme et pas forcément peinture.
Oui, tout à fait. On a l'impression qu'en fait, on va être bloqué avec le marqueur, que la couleur qui va être posée va être saturée, on ne va pas pouvoir y revenir. Mais avec le débit en fait, de la pointe pinceau, ça permet en fait, d'avoir une colorimétrie en fait, plus tendue, d'avoir un effet couvrant. Et justement, on quitte le côté du marqueur qui bloque en fait, le côté ancré avec l'alcool de cette coloration. Ça va nous permettre d'avoir des flux en fait, de passages plus tendus, des beaux aplats.
Ce qui signifie que ça peut aussi permettre de réaliser des nuances.
Tout à fait. On peut, à saturation, donc, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des miscibilités de couleurs, créer des nouvelles teintes et apporter en fait, des effets de valeur sur le travail.
Donc vous, en tant qu'artiste peintre, vous vous y retrouvez,
c'est-à-dire
en tant que peintre, voilà, ça.
C'est le lien entre.
Vous aimez utiliser ces marqueurs.
Ouais, on va dire le côté beaux-arts, plus technique et les arts graphiques.
Et alors, de quoi sont constitués ces fameux brush marqueurs ?
Alors, en fait, c'est du colorant avec en fait un diffuseur à base d'alcool. Mm-hmm. Voilà, mais une très faible odeur. Là, j'ai travaillé avec, on sent pas du tout. Il y a une évaporation assez rapide, mais le fait en fait d'avoir ce débit très important avec la pointe pinceau, ça nous permet de travailler en fait ces aplats plus longtemps et d'obtenir en fait des beaux dégradés, des fondus.
Et alors la différence avec le pro marqueur ?
Le pro marqueur en fait, il a une pointe fine et une pointe marqueur. Voilà. Mm-hmm. Donc on est plus dans le côté du trait, de l'aplat. On peut faire en fait des roughs. C'est plus utilisé, on va dire, dans une base avec dans les écoles d'archi, mode, voilà.
Alors que le brush, il y a un effet pinceau.
Ouais, voilà, donc
qui permet de faire plus une peinture.
Voilà, donc en fait, on va aussi pouvoir l'utiliser dans ces écoles-là, bien sûr, mm-hmm. au niveau des arts graphiques, ou en fait faire des aplats pour des planches de BD. Justement, au niveau du, comme il y a une souplesse énorme de cette pointe, on va pouvoir en fait avoir des effets d'arrondi, de modeler en fait des touches sur le, par exemple, un visage.
Et vous conseillerez peut-être d'utiliser les deux en même temps, c'est possible ?
C'est possible, oui. Ça permet en fait, il y en a un qui sert à construire et l'autre qui va servir en fait à affiner, à avoir des traits plus fins grâce à sa pointe très fine. Et dans la gamme aussi, il y a des néon marqueurs, donc c'est des effets un peu plus fluo, et des métalliques marqueurs. Voilà, comme ça, là, vous avez la totalité de la gamme. Juste au niveau technique, les métalliques marqueurs, on les utilise à la fin parce qu'ils ont un pouvoir couvrant tellement énorme au niveau du pigment. C'est ça aussi la force de chez Winsor & Newton. Ils utilisent des pigments, en fait, comme dans le Beaux-Arts. En fait, même si c'est un colorant, il est très, très épais. Et du coup, dans l'application, on a quelque chose qui matche bien au niveau des valeurs.
Et alors en plus, ce qui est intéressant, c'est que les nuances sont très diverses.
Oui.
Il y a énormément de
bleu,
de jaune, de
vert.
Enfin, on trouve un peu tout ce qu'on veut. Donc, pour un artiste, c'est quand même intéressant.
Ouais. Chaque artiste ou graphiste va s'y retrouver par rapport à ses projets. Donc, en fait, le Fine Art Collective, au-delà d'être un regroupement d'artistes sous l'égide de la société Colart, où on nous retrouve sur des salons comme pendant le festival d'Angoulême. On est issu aussi de milieux totalement différents. Il y a des graffeurs, il y a des sculpteurs, comme moi en fait, je suis de formation sculpteur mais je suis peintre. Et, on a donc un bagage, on a une histoire avec nous qui permet en fait de pouvoir être proche de tout le monde, être à l'écoute de tout le monde. Et au-delà de créer, on est aussi là pour... on est passionné. Et c'est un échange entre créateurs ou jeunes étudiants. Quand on va dans les écoles d'art, c'est le savoir oral. C'est ce qui s'est perdu. Et nous, on est un peu le lien entre le produit, comment on va l'utiliser, et le côté création finie. Voilà, on va autant... moi, je sais que quand je suis dans un workshop dans une école d'art, je les accompagne dans leurs ateliers... pour essayer de trouver des solutions, et ça leur permet d'ouvrir des portes, et ils vont aller créer avec des nouveaux matériaux, et c'est un enrichissement, c'est déjà en fait quelque chose d'important de pouvoir échanger comme ça, et de faire avancer en fait les arts, quoi, avec des jeunes créateurs.
Oui, c'est la transmission aussi de savoir-faire.
Oui, voilà, ouais, c'est quelque chose qui s'est totalement perdu, on a des traces écrites, mais très peu. Et souvent, c'est ce qui reste le créateur, il garde ça pour lui dans l'atelier. Et nous, on est une génération où, en fait, on veut aller vers les autres. Déjà, en fait, le fait de créer, c'est donner à voir, et c'est un échange, c'est une communication. Mais là, cette mission, quelque part, c'est justement d'être une générosité dans l'échange, dans le fait de pouvoir enrichir l'autre et l'aider, quoi. Voilà, avec un matériau. En fait, notre lien, c'est un produit qui va permettre de faire des choses. Nous, on les connaît, ça fait 20 ans, 25 ans qu'on utilise ces produits-là, et on va les faire découvrir autrement. Autrement, parce que quand je dis autrement, souvent dans les notices, c'est tellement simple que ça se limite à 4-5 mots, mais en fait, le produit peut faire plus. Et c'est ce qu'on, nous, on fait, on appelle ça de la cuisine. C'est ce qu'on a dans l'atelier.
Ouais. Secrets de fabrication.
Oui, on est un peu comme un cuisinier, c'est-à-dire qu'il faut différentes saveurs, différentes épices, et en fait, une création, c'est ça. Et nous, c'est nos petites astuces qui vont être en fait données.
Et je t'ai laissé les marqueurs Winsor & Newton, tout ça, qui sont sortis, je les connaissais pas. Ouais, voilà.
Vous avez découvert, et comment vous les avez trouvés, ces marqueurs?
Bon, je les ai trouvés géniaux, parce que... et par contre, je trouvais que ça permet
ouais, de revenir sur son dessin.
Ah oui, pour 3 mois.
Alors, modifier.
Ouais. Oui, ça, c'est vraiment autre chose. Et à part ça, la lumière, c'est quelque chose qu'au départ, on doit savoir où on ira, parce qu'on doit laisser la lumière. Ouais. Mm-hmm. Après, on va travailler tout le reste. Mais par contre, avec ça, on peut allumer après. Et ça, c'est génial.
C'était Secrets de Fabrique sur Art District. Une émission à retrouver les lundis, mercredis et vendredis à 16h. En partenariat avec Winsor & Newton. Bonne fin d'après-midi sur Art District, à l'écoute de notre programmation jazz.